voyait assez bien son visage. Il paraît qu'elle a une vraie tête de bretonne, dans le bon sens du terme, que c'était une femme pas très grande. Elle pourrait faire penser à une de nos grand-mères, mais certainement.
Notre témoin ce vendredi, Louise de Cango, la dame retrouvée des Jacobins.
Ce jour, on a tout de suite vu que c'était pas un jour ordinaire, en fait. Quand on a ouvert le cercueil, on s'attendait à trouver un squelette. Là, on pensait vraiment pas trouver un corps complet, aussi bien conservé. Et donc, ce qui nous a vraiment étonnés au départ, tout de suite, c'était le volume, les tissus, les chaussures, voilà, la conservation des textiles à l'intérieur de la cuve. On avait très très peu de temps pour réagir. Donc, la seule information qu'on avait, c'était qu'il fallait garder le corps pendant maximum 72 heures à 4 degrés pour pouvoir l'étudier dans les façons le plus convenables possible.
En plein centre de Rennes, l'ancien couvent des Jacobins vient de rouvrir, réaménagé en centre de congrès autour d'un cloître rendu à la lumière, et la maire de Rennes a déclaré que l'endroit serait, je cite, « un des nouveaux cœurs battants de la Bretagne ». Et en effet, les Jacobins ont fait beaucoup parler d'eux depuis le début des travaux. Comme de coutume, l'INRAP a procédé à des fouilles préventives et en 2014, ses archéologues, on vient d'entendre dans l'exergue Rosenkolter, ont découvert un corps formidablement conservé. Prodige ! L'identification fut immédiate, il s'agissait de Louise de Cango, une veuve de la haute noblesse parlementaire rennaise, décédée en 1656 et qui avait voulu se faire enterrer à quelques mètres du tableau miraculeux de la Vierge que conservaient alors les Jacobins. En deux temps, trois mouvements, la dame se trouva expédiée en camion frigorifique, direction le CHU de Toulouse, pour études autopsiques, tomo-densitrométriques et tutti quanti. Les archéologues travaillent maintenant avec des équipes interdisciplinaires parfaitement coordonnées. Une fois que Louise fut très exactement documentée, une campagne de communication s'organisa autour d'elle. Aujourd'hui, les archéologues tweetent et retweetent. La défunte qui croyait en la vie éternelle ressuscita d'une manière qui l'aurait étonnée. Les descendants ne manquèrent pas de se manifester et lui refirent un autre enterrement, en Bretagne rurale, cette fois avec évêque, Bignou, Hermine jetée sur le cercueil. Et quant à la mère de Rennes, elle est aux anges. La Bretagne tient sa momie et l'investissement consenti aux Jacobins a trouvé une justification providentielle.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Gauthier Aubert, bonjour.
Bonjour.
Directeur du département d'histoire de Rennes 2, spécialiste de l'histoire bretonne, 17e, 18e siècle, en même temps qu'on ouvrait le centre des congrès, 30 000 visiteurs gratuits. Pendant un week-end, un colloque se tenait, organisé, autour de Louise, au-dessus de laquelle se penchaient des spécialistes de toutes disciplines, auxquels vous n'êtes pas habitué à parler.
En effet, habituellement, nous discutons au plus loin avec des gens des bibliothèques et des archives. Et là, nous autres historiens avons été embauchés par des archéologues, des anthropologues, des médecins légistes, des spécialistes du vêtement ancien, des conservateurs de musées. Alors ceux-là, on les fréquente beaucoup plus fréquemment. Pour un colloque centré autour de ce personnage que vous venez d'évoquer, Louise de Cango, qui a été découverte il y a quelques années à Rennes. Et l'idée, c'était à travers Louise de fédérer des talents variés, des disciplines qui n'ont pas forcément l'habitude de se fréquenter. C'était aussi l'idée de faire de Louise un prétexte pour mieux connaître, s'il est possible, en croisant les enseignements des archives et les enseignements de la science dure, comme on aime à dire parfois, elle est parfois même la plus dure qui soit, croiser ces enseignements pour pénétrer au plus près le quotidien des élites bretonnes du XVIIe siècle.
Bon alors, quand même, vous, le spécialiste de la Bretagne et du XVIIe siècle en Bretagne, vous aviez des choses à dire, et puis avec quelques collègues, vous avez compulsé beaucoup de sources écrites, les sources parlementaires, les sources des dominicains, les Jacobins, ce sont des dominicains, et vous avez constaté qu'on savait peu sur Louise de Cango, du moins dans sa jeunesse et son âge mûr, c'est surtout à partir de son veuvage, son époux, Toussaint de Périen de Bréfeillac, disparaît en 1649, qu'on connaît un peu sa vie.
En effet, alors avec mes collègues Georges Provost de l'Université de Rennes 2 et Bruno Isblé des archives départementales qui ont énormément travaillé sur ce dossier, on a remarqué quelque chose qui ne nous a pas complètement étonné, c'est que avant son veuvage en 1649, Louise est quasiment une inconnue. Elle cesse un petit peu de l'être durant les quelques années qui lui restent à vivre avant d'être inhumé aux Jacobins.
Parce qu'une veuve, c'est une femme plus libre.
Elle est plus libre. Elle est effectivement plus libre. Elle dispose de son douaire, donc elle a une certaine indépendance économique. Et elle gère des biens, elle peut signer des actes notariés. Elle témoigne d'ailleurs à travers les actes notariés qui ont pu être retrouvés, qu'elle avait, sinon le sens des affaires, du moins le sens d'une certaine rigueur dans la gestion de celle-ci.
Oui, mais la rigueur, elle l'appliquait aussi à sa vie personnelle, parce que plus le temps passait, plus elle vivait, semble-t-il, retirée, et elle a tenu à se faire enterrer dans une vêture religieuse, que voici décrite, parce que ce vêtement, on l'a retrouvé quasi intact.
Donc on avait un costume de religieuse qui était complet, qui était parfaitement bien conservé, et on a réussi à déshabiller le corps, puisque le corps était encore un peu souple. On a stocké le tissu à plat sur des plaques pour pouvoir après le conditionner, laisser sécher. C'est pas tous les jours qu'on trouve un costume complet du XVIIe siècle.
Alors, ce costume, tel qu'on peut l'entrevoir à partir des éléments qui sont quand même très dégradés, et d'après ce que nos collègues restauratrices ont pu observer, se compose bien sûr de coiffes, hein, trois coiffes superposées, et alors il y aurait ensuite une chemise, un plastron, un masque facial, une chasuble ou scapulaire, une robe de bure, une cape et des guêtres. Donc ça fait tout de même un ensemble assez important, un costume assez complexe que Louise de Kengo portait lorsqu'elle a été inhumée.
Elle a plutôt les cheveux courts. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des mèches plus longues à la base du cou qui peuvent être liées à... qui peuvent être les cheveux longs qui étaient comme une queue de cheval dans le bas. Donc c'est intéressant, ça pourra nous guider sur les coiffures qu'il pouvait y avoir au XVIIe siècle ici dans la noblesse. Nous on va faire des prélèvements, mais la principale archive ça va être notre photographe, c'est lui qui va immortaliser cette chevelure, parce que la technique de conservation de ses cheveux va être très compliquée.
Bon, elle n'a pas les cheveux rasés, elle n'a pas pris le voile, elle porte cependant une robe de bure, un scapulaire, elle se fait enterrer dans un couvent, mais elle ne vivait pas dans les dernières années au couvent.
Non. On s'est demandé au début s'il ne pouvait pas s'agir d'une veuve qui aurait pris l'habit, qui se serait installée dans un couvent. Et en fait, non. Hein, les actes notariés retrouvés en particulier montrent qu'elle continue à vivre chez elle, qu'elle a une vie laïque. Mais néanmoins, cette vie laïque est dévote. Et jusque dans la mort, elle veut, dans son cercueil de plomb, témoigner de cette vie de dévotion, de cette vie d'humilité. Quelque chose qui n'a pas été mentionné ici par Rosane Colletter, mais qu'elle mentionne ailleurs, c'est qu'elle avait les mains jointes avec un crucifix dans les mains, ce qui a énormément impressionné ceux qui ont découvert son corps. Par ailleurs, à l'autre bout de la chaîne de la découverte, les analyses les plus récentes qui ont pu être faites et qui ont été révélées lors du colloque concernant le vêtement montrent que la cape était bleue, et la question qui se pose serait de savoir si ce manteau bleu ne pourrait être une référence évidemment à celui de la Vierge, pour laquelle elle avait une très grande dévotion.
Et à proximité d'une image miraculeuse de la Vierge, elle s'est fait enterrer. Elle est dévote, enfin, il faut prendre le mot au sens du XVIIe siècle, et autour d'elle, les milieux qu'elle fréquente, des branches entières de sa famille, sont dévots.
Oui, alors elle participe pleinement de ce grand mouvement qu'on appelle la réforme catholique, qui s'épanouit véritablement à cette époque-là. C'est la grande époque de Port-Royal, c'est la grande époque du couvent de Chaillot, dans lequel Louise de La Vallière bientôt ira se réfugier avant de prendre le voile définitivement, mais ce sera la génération suivante.
Enfin, elle est veuve de Louis XIV, enfin je veux dire Louis XIV.
Oui. elle est pas veuve de Louis XIV, elle est la mère d'enfants qu'elle a eu avec Louis XIV, elle a peut-être beaucoup.
C'est et donc, un effectivement, veuvage particulier.
Et effectivement, Louise de Kengo, elle n'a pas eu d'enfants, elle ne sait même pas si elle a eu des grossesses, elle n'a pas eu d'enfants, donc elles illustrent finalement Louise de La Vallière et Louise de Kengo, le même prénom, l'étendue des possibles dans cette dévotion française qui pouvait exister, des gens qui sont portés à des moments différents de leur vie vers la piété qui se veut la plus radicale finalement.
Les historiens ont été tentés de produire un texte qu'ils ont découvert devant l'évêque de Saint-Brieuc, une harangue funèbre par le père Noulot en l'honneur de Louise de Kengo.
Tant de personnes si inutiles, si méchantes, si malfaisantes vivent dedans le monde et y vivent si longtemps. Et une telle âme que l'âme de la défunte, si utile à sa famille, si utile au public, où elle accommodait partout les différents des pauvres, si nécessaire à tant de charité qu'elle pouvait et qu'elle voulait faire, y avoir si peu vécu. Mais donc, Dieu infini, vous nous l'avez ravi. N'ayant plus ensuite qu'à nous taire et à baisser la tête devant vos jugements et sous ce coup de votre main, parce qu'il n'y a rien qui puisse vous résister. Après nous avoir dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur », vous ajoutez un continent, vous trouverez le repos à vos âmes. Cette dame l'avait appris, qu'elle trouve donc ce repos et le trouve bientôt.
C'est une fédération de talents ici, parce qu'on évoquait les spécialistes des chaussures, les calcinologues, et on a eu recours à un tintinologue, Albert Alcou, bien connu de nos auditeurs, pour interpréter le père Noulot qui chante la mémoire de Louise de Quingot.
Pas exactement, on aurait
comment
bien aimé.
Ben,
Louise avait une filleule et nièce qui portait le même nom qu'elle, fille de son frère, qui s'appelait également Louise de Quingot, qui est décédée quelques années avant elle. Donc il est probable que Louise ait assisté à ses obsèques, encore qu'on n'en est pas complètement certain, puisque l'abbé Noulot appelle son assistance messieurs. Alors bon, le doute demeure.
Et donc c'est
la nièce qui est enterrée, qui bénéficie. Alors elle est enterrée au fin fond de l'actuel département des Côtes d'Armor, hein, à Langas. On est très étonné, l'évêque de Saint-Brieuc est là, le théologal est là. Ce théologal n'est pas une personnalité anodine, c'est une personnalité majeure du grand siècle dévot qu'est le XVIIe siècle.
C'est le père Noulot.
C'est le père Noulot.
Qu'on vient d'entendre.
Personnage très important, très connu. D'ailleurs là, le texte a été imprimé, ce qui n'est pas non plus anodin. Et tout cela participe évidemment de ces réseaux que vous évoquiez tout à l'heure. La famille de Quingot n'est pas qu'une petite famille du fin fond de la Bretagne. Elle est aussi reliée à la famille de l'archevêque de Paris, Ardoin de Péréfix, bien connu pour ses démêlés avec Molière, et c'est sans doute tout ça qui participe. On est dans une famille, vous le disiez, qui est insérée dans des réseaux dévots. Même s'il y a quand même quelques mauvais garçons dans la famille aussi, qui tranchent
un peu dans
le paysage.
Il suffit d'avoir un fils naturel et on est un mauvais garçon.
Je pensais aussi à ceux qui ont fait le coup de poing en 1675 pendant la révolte des Bonnets Rouges, ou qui ont quelques déboires à ce moment-là.
Mais vous allez voir, elle va finir par devenir plus célèbre que les Bonnets Rouges, Madame de Quingot, vous nous l'expliquerez. Mais Louise, là, la nièce, elle est présentée par le panégyrique comme étant un modèle de charité. La tante l'était vraiment?
On ne sait pas.
L'air près de ses sous quand même.
Elle avait l'air près de ses sous. Et il nous manque des sources pour connaître Louise de Quingot, la première, de manière vraiment pertinente, c'est qu'en fait, nous n'avons pas son testament. Et nous ne savons pas en particulier quel était son rapport aux pauvres au moment de décider de ses dernières intentions. Donc elle reste assez mystérieuse. Sur Louise de Quingot, on sait beaucoup de choses qui touchent à l'intime. On sait par exemple que ses ongles étaient très bien tenus, les ongles des mains, mais pas ceux des pieds. Nous savons qu'elle chaussait du 35, elle mesurait 1m40. Et nous savons beaucoup de choses à l'autre extrémité sur son milieu. Et entre les deux, l'échelle biographique nous échappe encore largement. Mais nous n'avons peut-être pas dit notre dernier mot.
Enfin, on a retrouvé la fondation de 1649 après la mort de son époux, Toussaint de Périen de Bréfeillac. Elle veut que le cœur de son époux repose dans l'enfeu, dans l'espace du couvent des Jacobins qu'elle a retenu pour elle. Et elle crée des fondations, c'est-à-dire qu'elle donne de l'argent pour que des services soient célébrés à cet endroit précis.
Pour le repos de l'âme, pour le temps passé dans le purgatoire en particulier, et vous évoquez le cœur de son mari, car évidemment cette famille se prête à une pratique qui est relativement courante dans la haute société, mais pas non plus extrêmement répandue.
Ça s'appelait dit sceleratio corporis.
Et voilà, donc elle sépare son corps, le cœur du corps, et donc nous avons un jeu très intéressant qui témoigne d'une forme d'amour conjugal ici probablement, puisque le corps de monsieur est à côté de Carré, avec le cœur de madame, et le cœur de monsieur reste à Rennes, avec le corps de madame, pour l'éternité.
Le corps de madame pour l'éternité, oui, enfin c'était sans compter sur les travaux de madame la maire de Rennes, sans l'intervention de l'INRAP en 2014, voici que l'enfeu de la fondation est ouvert.
Il y a 3 millions d'années que je dormais dans la tourbe, quand un méchant coup de pioche me trancha net le col et me fit effectuer une gracieuse courbe, à la fin de laquelle je plongeais dans le formol. D'abord on a voulu me consolider la face, on se mit à me brosser mâchoire et temporale, suivit un shampoing au bichromate de potasse, puis on noua une faveur autour de mon pariétal. Du jour au lendemain, je devins une vedette,
journaux, télévisions, il n'y en avait que pour moi. Tant et si bien du reste que les autres squelettes, se jugeant délaissés, me battaient un peu froid. Enfin les scientifiques, suivant coutumes et us, voulant me baptiser de par un nom latin, m'ont appelé Pité Cantropus Erectus. Erectus, ça me va bien, moi qui étais chaud la fin.
On n'en entendra pas davantage de Serge Reggiani, parce que Madame de Quingot, qui est dévote, n'aurait pas supporté le développement qui suit déjà. Elle va en voir beaucoup depuis qu'on a retrouvé, en 2014, son cercueil de plomb, son corps quasi intact aux Jacobins de Rennes. Et donc on l'expédie par camion frigorifique à Toulouse, où elle va faire la rencontre de spécialistes qui vont être étonnés par ses charmes, même les médecins légistes du CHU de Toulouse.
Oui, le médecin légiste, Fabrice Dédouy, et les chercheurs du laboratoire Amis à Toulouse ont été sous le charme de Louise. D'ailleurs, vous remarquez que tout le monde ne parle que de Louise hein, dans cette affaire. Le prénom suffit à la caractériser.
Ah ben, je suis heureux de vous entendre dire ça, parce que quand on a fait une émission sur Camus et Cazares, une auditrice m'a dit que j'étais sexiste parce que je parlais de Maria.
En tout cas, là, Rosane Colletter ne saurait être taxée de sexisme, je crois, et elle parle avec beaucoup d'affection de cette Louise, car je crois que quelque chose s'est passé de très fort, que nous avons très bien ressenti, nous qui étions extérieurs, les historiens sont arrivés après, un peu comme la cavalerie dans cette affaire, c'est le lien très... l'émotion très intense que les chercheurs ont ressenti face à ce qui est tout à fait inhabituel pour eux. Nous avons des archéologues qui, pour le chantier des Jacobins, ont été amenés à étudier des centaines de squelettes, et qui, au cours de leur carrière, ont étudié des centaines d'autres squelettes, et qui, tout d'un coup, se trouvent face un corps. Ce corps avec ses mains jointes, avec le crucifix, un visage noirci, des cheveux roux, sans doute liés à l'évolution chimique et non pas à sa couleur naturelle. Tout ça est tout à fait, les a énormément fascinés. Et quand ils ont ouvert le cœur de monsieur, j'allais dire monsieur
Toussaint de Perrien,
donc monsieur Louise, eh bien, la salle entière s'est mise à embaumer. Ils en étaient extrêmement frappés de voir la qualité de cette odeur qui n'était absolument pas supportable, bien au contraire. Donc il y a une très grande émotion qui est aussi liée à l'idée qu'il a fallu sauver le soldat Louise à un moment. Il a fallu la transporter en urgence à Toulouse, car ça n'avait pas été possible à Rennes, vous l'avez dit, en 72 heures, dans un camion frigorifique, et ce, après un véritable accident de chantier, puisque les circonstances de la découverte sont tout à fait remarquables. Ce cercueil était un petit peu à l'écart des autres. L'aménageur avait souhaité qu'il soit traité plus tard. Malheureusement, un coup de pelleteuse est venu éventrer le cadavre, et il a fallu intervenir, alors peut-être pas avec des bottines et des pince-nez, mais avec des blouses, des masques à gaz, des combinaisons, car très vite, les mouches arrivait et on comprenait que la putréfaction commençait son œuvre qui était arrêtée depuis des siècles.
Pas question de pelleteuse à Toulouse, c'est un travail de précision ainsi que nous en informe un film produit sur Louise de Quingot par l'INRAP.
Le scanner est assez exceptionnel par rapport à la qualité des renseignements qu'il nous apporte. Évidemment, l'autopsie aussi, donc les deux sont complémentaires et amènent tout un tas de renseignements qui sont liés aussi au fait que le corps était bien conservé. Si le corps n'avait pas été bien conservé, on n'aurait pas pu travailler dans des conditions aussi optimales. Après, effectivement, le fait de réaliser un scanner sur une personne décédée en 1656, c'est inédit, oui.
Pour tenter de comprendre les causes du décès de Louise de Quingot, des prélèvements des poumons ont été confiés au laboratoire d'anthropologie moléculaire AMIS.
On a prélevé des échantillons pulmonaires, on a aussi prélevé des dents, puisqu'en fait on a deux aspects que l'on peut aborder au niveau des pathologies pour Louise. L'aspect pulmonaire, c'est qu'on peut chercher avec le tissu pulmonaire des molécules qui seraient représentatives de pathogènes pulmonaires qui étaient présents à l'époque de Louise, notamment la tuberculose, le staphylocoque, les pneumocoques, donc toute une batterie de pathogènes pulmonaires que l'on pourra rechercher au sein du tissu pulmonaire. Nous avons fait des premiers tests quand même, et nous savons que l'ADN au moins endogène, ce qu'on appelle l'ADN propre à l'individu, est conservé sur Louise, sur les D'accord. tissus pulmonaires. Donc on a une possibilité de retrouver aussi le pathogène qui a touché de son vivant Louise.
Rendons à West France, qui appartient à West France. Le début du son, c'est West France. Vous aurez remarqué que l'INRAP est moins doué pour la prise de son que pour l'analyse archéologique, peut-être, mais je referme la parenthèse, parce que pour la communication, l'INRAP décide de mettre Louise sur orbite à partir de 2015. Alors, c'est le thème de votre communication au colloque qui vient de se tenir, Gauthier Aubert, parce qu'il y a les calcinologues, spécialistes des chaussures, et puis il y a les googologues, spécialistes de la mesure de Google, par exemple.
Je ne prétends pas autant de science, mais effectivement, les outils que met à disposition Google permettent de voir qu'au début du mois de juin 2015, il y a un pic d'intérêt manifesté par les internautes pour Louise de Quingo. Et ce pic d'intérêt...
Ça commence par des tweets.
Alors, tout commence par des tweets qui partent du Musée de Bretagne, qui est l'institution qui est chargée de recueillir notamment les vêtements et qui est partenaire de l'INRAP au titre des fouilles.
Et le colloque se tenait au Champ Libre.
Et le colloque se tenait au Champ Libre.
Ou ici, le Musée de Bretagne.
Et tout commence par une conférence de presse le 2 juin 2015, en présence du président de Rennes Métropole, Emmanuel Couette, et qui suscite aussitôt un intérêt. Il y a là un plan com très bien fait, visiblement, une salle qui joue sur le clair-obscur, qui joue sur la lumière, sur des images très frappantes de visages décharnés, etc. Le plan com est excellent, mais chacun sait que le meilleur plan com du monde peut échouer. Et ça prend. Et aussitôt, il y a un pic d'intérêt qui dépasse de très loin les frontières tracées par la rocade de Rennes et même de l'Hexagone, puisqu'on va retrouver des tweets jusqu'en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. La presse internationale va s'y intéresser, en Asie du Sud-Est également.
Il y a quand même des points faibles, parce que ça demande vraiment une analyse très précise, hein, la circulation de Louise. C'est appelé points faibles, c'est le monde russe et le Proche-Orient.
Oui, alors soit.
Vous avez une explication.
Alors, je ne suis pas encore un googlologue assez averti pour comprendre exactement comment fonctionne l'algorithme qui est derrière, et on peut peut-être supposer qu'il y a quelque chose qui a trait à la langue ou la nature des lettres, des claviers, mais on peut aussi se demander si ce n'est pas aussi dans les liés à vieux fonds culturels, religion orthodoxe et musulmane, sont par rapport aux morts, par rapport à la crémation, à la thanatopraxie, beaucoup plus réservés, c'est le moins que l'on puisse dire, que ne peuvent l'être les sociétés pétries de christianisme protestant et catholique. Notre société actuelle, effectivement, qui voit la multiplication de la crémation et de la thanatopraxie, on pu peut-être être fasciné par l'image de Louise, cette femme qui a résisté au temps, dont le corps a résisté au temps, qui a résisté à la putréfaction.
Louise de Quingo avait un frère, puisqu'elle n'avait pas d'enfant. Ce frère a été intéressé à l'héritage, c'était un Tonquédec. Alors Tonquédec, ça c'est une famille bretonne de vieille noblesse, illustrée tour à tour par des... notable, un général et un acteur maintenant.
Bien sûr.
La famille de Tonquédec s'est manifestée, elle n'a pas laissé passer l'occasion.
Ça a été le roman dans le roman, dans cette espèce de roman de la momie que nous racontons aujourd'hui. Il y a eu une sorte d'épisode tout à fait intéressant, alerté par le ramdam médiatique. La famille de Tonquédec s'est manifestée, et, ne descendant pas de Louise de Quingo, mais a demandé à récupérer le corps pour l'inhumer. D'abord, le projet était de l'inhumer dans l'église du village de Tonquédec, dans l'actuel département des Côtes du Nord, et d'Armor, pardon. Et il est impossible d'inhumer quelqu'un dans l'église, sauf quand on est évêque ou qu'on s'appelle Jean Le Canuet. Et il y a eu une autorisation pour être inhumé dans le cimetière communal de Tonquédec, sur la terre qui est une terre ancestrale. En fait, c'est une terre qui a été achetée en 1636 par le frère de Louise et où elle l'a sans doute jamais mis les pieds, mais c'est la terre de référence mémorielle de la famille de son neveu, qui était d'ailleurs chargé d'exécuter son testament.
Alors, cérémonie à l'ancienne, avec d'abord Jean-Claude Le Busulier, le maire de Tonquédec.
Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je tiens à remercier toute la famille de Tonquédec d'avoir choisi notre commune située au cœur du Trégor pour réinhumer leur ancêtre.
Avant de commencer la célébration, merci Monsieur le Maire de nous accueillir sur votre commune. Chers amis, Louise de Quingo ne savait pas sûrement qu'elle susciterait autant de curiosité et d'émotion 358 ans après sa mort. Même si nous procéderons à l'inhumation de son corps, ce que nous vivons maintenant n'est pas tout à fait un deuxième enterrement. C'est plutôt, suivant la tradition de l'Église, une messe à sa mémoire.
priez pour nous, Sainte Mère de Dieu.
Comme dit Guillaume de Tonquédec, le comédien qui appartient à la famille et qu'on connaît bien, elle aura vu du pays, la pauvre. Elle aura même vu un prêtre africain, comme il y en a tant maintenant dans les campagnes françaises, se pencher sur son cercueil. Vous, vous aviez une autre proposition que Tonquédec?
Oui, effectivement, c'était peut-être une provocation. En s'appuyant sur les archives avec Georges Prouvot et Bruno Isblé, nous avions considéré que l'inhumation devait se faire, si on voulait respecter au plus près ses intentions, dans l'église qui, en face du couvent des Jacobins où elle a été trouvée, a recueilli l'image miraculeuse, l'image de Bonne Nouvelle. Et donc, nous avions fait effectivement un communiqué de presse pour indiquer que si on voulait respecter ses dernières volontés, il faudrait l'inhumer, non pas à Tonquédec, mais à Rennes, dans l'église Saint-Aubin, au pied de l'image.
Dont elle voulait être proche.
Exactement. Donc nous avions fait cette proposition, et avec une proposition moins humoristique, qui était de considérer qu'elle était au fond très rennaise, même si par son mariage, elle a une existence qui résonne à l'échelle bretonne. Hein, elle a vécu, elle a eu des projets de fondation à Quimper, etc. Elle est au fond très rennaise par la famille, par sa famille de sa grand-mère maternelle, qui est une des plus grandes du Parlement de Bretagne, et comme beaucoup de veuves d'ailleurs, elle préfère finir sa vie en Bretagne avec ses tantes et ses cousines dans le couvent des Carmélines, comme le dit un texte de l'époque exhumé par Christian Vénard dans l'histoire du christianisme. Donc elle est très rennaise, elle est très attachée, et il faut voir que ce tableau miraculeux est très important à Rennes. Il y a eu notamment dans les années 1630 à Rennes, en 1632, une peste. La ville de Rennes a fait un vœu pour remercier la Vierge d'avoir arrêté l'épidémie de peste. Ça a été un événement tout à fait considérable. On a commandé à Paris, auprès d'un orfèvre, la réalisation d'un ex-voto qui représentait la ville en elle-même, un ex-voto en argent. Ça a coûté très cher. C'est un événement considérable. L'installation de l'ex-voto devant le tableau a été une très grande fête. Donc c'est un lieu qui, pour les Rennais dévots du XVIIe siècle, et beaucoup le sont, est extrêmement important. Et donc, nous avions considéré que Tonquédec n'était peut-être pas le plus conforme à sa volonté, mais nous n'avions aucun intérêt dans l'affaire, bien sûr.
Mais dites-moi, Gauthier Aubert, on peut se mettre dans la tête de Louise, puisqu'on est entré dans son intimité maintenant. Elle voit le monde moderne, alors qu'elle attendait la résurrection des corps et la vie éternelle. Et c'est une toute autre vie surexposée, médiatique, qui lui est proposée.
Peut-être qu'elle n'est pas au purgatoire non plus. On attend le jugement dernier pour en savoir davantage. Vous comprenez que votre question me déstabilise complètement, puisque je ne peux pas savoir ce qu'elle pense. Néanmoins, il y a quand même un élément. La sépulture qu'elle veut à Rennes n'est pas exempte de toute dimension dynastique. Elle veut que ses armoiries soient représentées, et elle envisage que cette tombe puisse être celle de certains de ses neveux qu'elle affectionne particulièrement dans une perspective toute dynastique. Donc là,
elle n'est pas mécontente d'être connue.
Peut-être que finalement, il y a la revanche de cette Louise, cette illustre inconnue qui aujourd'hui est connue.
Et puis alors, dites donc, quelle chance pour la Bretagne d'avoir une momie.
Oui,
il nous faut des momies dans notre imaginaire.
Il nous faut des momies pour notre imaginaire. Il y a Otzi, il y a Ramsès II, il y en a quelques autres, il y a Lénine. En Bretagne, nous avons Louise de Quingot, et elle est rennaise par sa famille maternelle, mais elle est vraiment bretonne. Je parlais de Quimper, son mari est inhumé à Carhaix, son cœur est à Carhaix, on l'a pas encore retrouvé. Elle est pleinement bretonne, et c'est une belle icône pour la Bretagne du XXIe siècle.
Non,
aussi.
Mais ça valait le coup de dépenser tant d'argent pour aménager les Jacobins, quand même.
Les contribuables rennais qui sont aussi électeurs en jugeront dans quelques temps.
Merci à vous, Gauthier Aubert. L'émission a été préparée par Franck Olivard. Je signale qu'au Champ Libre à Rennes, jusque mi-janvier, une exposition est consacrée à Madame de Quingot. Je redis à la réalisatrice Audrey Ripouille qu'on ne voit pas la momie, parce qu'elle est à Tonquédec maintenant, sous la terre. Merci. Gaël Brewizek. Et qu'est-ce que nous avons à notre programme, cher Mathieu Vidard?
Eh bien, nous sommes vendredi, Jean. Oui. Donc, c'est le club dans un instant. On va parler du business des conférences scientifiques, des mots de la ville et de dyspraxie. Voilà pour le menu.
De dyspraxie.
Oui, monsieur.
Très bien. Vous savez ce que c'est qu'un calcinologue, Mathieu Vidard?
Ah non,
qu'est-ce que c'est? Vous podcasterez la marque de l'histoire.
Bonnes vacances, Jean.
Merci à vous aussi.